الشر حمد ودعي إليها هنا في هذه الطريقة التقليدية التي يمارسها الدكتور. حضر عدد كبير من الفرنسيين. ألقيت هذه المحاضرة ضدها في جامعة سيوان في مصر، ودعي إليها رسائل مختلفة جدا وباللغة الإنجليزية الفريق من غيره ما حضرها ولا واحد. ولا أريد أن أقول عن التعقيبات التي جاءت عندما سئل فلان وفلان لماذا لم يحضر، فقلت هذا الكلام فقط لشيء واحد، أن لا تنسينا المجاملة، وأنا مع الدكتور في المجاملة، أن لا تنسينا المجاملة الطريقة الغريبة والفريدة في كيف البريطاني للإسلام. وشكرا.
Merci. Nous allons renvoyer une majorité des questions à cet après-midi, faute de temps. Une dernière question cependant sur Yves Plastro, sur le voile et la carte nationale d'identité.
والسؤال الأخير يوجه للأستاذ بلاسيرو لأنه مضطر لمغادرتنا، وإن شاء الله لما نستأنف بعد الظهر الأسئلة اللي تفضلتم بها ستتلقون الإجابة عنها.
Rassurez-vous, j'épargnerai le couscous qui froidit. La question concerne le port effectivement du voile, que ce soit pour les chrétiens ou pour les musulmans. C'est une question assez pratique. Est-ce que c'est pas idiot d'interdire le voile sur les cartes d'identité? Parce qu'en réalité, quand la personne en question sera contrôlée, de toute façon, elle portera le voile et par conséquent, c'est comme ça qu'il faut l'avoir, puisque c'est comme ça qu'est son identité publique. Alors, je ne ferai pas une réponse personnelle, j'ai déjà pris pour partie tout à l'heure. Je ferai une réponse en juriste français. Le droit français, de par une jurisprudence maintenant constante qui remonte après 1870, prohibe de façon tout à fait claire l'affichage et l'affichage et surtout la prise en compte par l'État de signes confessionnels dans l'espace public. Or, c'est la prise en compte par l'État, donc par l'administration, de signes confessionnels dans l'espace public. Or, précisément, la photo d'identité relève très exactement de ce qu'une jurisprudence constante a décidé comme étant illégal depuis maintenant au moins la guerre de 14. Par conséquent, il est absolument normal qu'un gouvernement français veuille faire respecter la loi française, et sur un plan général juridique, je ne saurais pas le critiquer. Ce n'est pas nécessairement mon sentiment personnel sur un plan subjectif, mais sur un plan juridique et vu l'État français, c'est normal. Voilà une réponse simple.
Merci Yves, je crois que nous allons nous arrêter là parce qu'un petit mot nous dit que le couscous va être froid. Nous allons poursuivre cette discussion cet après-midi et je vous remercie de nous avoir écoutés.
Ah. يعني طرح له سؤال حول قضية الحجاب في فرنسا، يقول بأنه إحساسه كرجل قانون يتفهم الموقف الفرنسي لأنه فيه قانون قديم يعني قبل الحرب العالمية الثانية لا يسمح بإعلان مظاهر الدينية في ما يسمى بالإطار العام أو يعني الذي يجمع كل الناس، فمن هذا الإطار هو يفهم لأن يعني اعتراض السلطات الفرنسية على ابتداء الحجاب في الوثائق، ولكن يقول كذلك كإحساس شخصي بأنه كذلك لا يحس بأن فيه إجحاف في حق المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب. نعم يعني هو يعني كما قال الشيخ ممن يدافعون على هذه القضية.
Merci donc bon appétit et à tout à l'heure, nous vous attendons tout aussi nombreux.
Pense pour le bon fonctionnement. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من جديد. Rebonjour. Nous allons, Inch'Allah, nous introduire dans l'espace de la deuxième table ronde. سننطلق بعون الله لنرتاض في رياض المائدة المستديرة الثانية. Cette table ronde sera vitaminée par deux interventions. ستغذى هذه المائدة الثانية برافدين اثنين. الرافد الأول, la première intervention, c'est celle de Cheikh Saïd Ramadan Al-Bouti, laquelle sera suivie par l'intervention de notre amie Madame Françoise Michaud. Madame Françoise Michaud est une amie quel est le qualificatif qui correspond le mieux? C'est une amie de longue date de notre centre. Madame Françoise Michaud est professeure d'histoire médiévale à la Sorbonne. Elle dirige beaucoup de thèses et je vais vous dévoiler un secret. Les étudiants qui travaillent avec elle sont plus que satisfaits.
Sa contribution...
Ah oui, oui. Sa contribution au sein de notre centre est d'une grande importance. Madame Françoise Michaud a rédigé beaucoup de livres. J'ai sous les yeux le livre intitulé « Communauté chrétienne en pays d'islam »« Al-Jama'at al-Masihiyya fil bilad al-Islamiyya » Hada huwa kitab. Walaha kutubun ukhra تتعلق بتاريخ الإسلام. طبعا الشيخ سعيد لا يحتاج إلى تعريف. Je n'ai pas besoin de vous présenter Cheikh Saïd. Cheikh Saïd, أستاذ كبير لأجيالنا هذه. أول مرة نبتدع بدعة حسنة. تتمثل هذه البدعة في إسناد رئاسة جلسة من جلسات ندواتنا إلى بنت من بناتنا. La première innovation, entre autres, du centre socio-culturel dans le domaine de la culture et de l'échange interculturel, la première innovation se traduit par le fait de confier l'animation, voire la présidence de cette séance, à l'une de nos filles. Keltoum est une élève de l'école du centre socio-culturel de la rue de Tanger. Keltoum, tilmidatun min tilmidat madrasat al-markaz al-ijtima'i al-thaqafi. وسترون العجائب والغرائب من شجاعتها الأدبية. وهي أيضا تتوسط شيخنا والبروفيسور مدام فرانسواز ميشو. أظن قلت أقوله وسأكلته.
Salam alaikum, bonjour. Je vais présider cette séance, avec plaisir d'ailleurs. Pour lancer entre guillemets de la deuxième, je vais donner la parole à Cheikh Mohamed Senelbou.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa afdalu salati wa atamu taslimi ala habibina al-Mustafa. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة, كعادتي دائما سأتكلم فقرة ثم أتوقف لتسمع الترجمة ثم أعود إلى الفقرة التي تليها وهكذا. أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى. مصطلح الأقليات لا وجود له في قاموس الشريعة الإسلامية ولا في تاريخ المجتمعات الإسلامية، وإنما هو تعبير اقتضاه واقع المجتمعات الغربية، وذلك عندما وفد إليها وأقام فيها أناس استقلوا عنها بمعتقداتهم الدينية أو أعرافهم السلوكية أو انتماءاتهم العرقية، فحال ذلك دون اندماجهم في نظام تلك المجتمعات وحال دون انضباطهم بقوانينها وأنظمتها.
السلام عليكم. En islam, il n'y a ni minorité ni majorité, mais une justice sociale. C'est ainsi que s'intitule l'intervention de Cheikh Al-Bouti. Il dit « On ne trouve le terme minorité ni dans le dictionnaire de la charia, ni dans l'histoire des sociétés musulmanes. C'est plutôt une expression dont l'usage a été suscité par le vécu des sociétés occidentales quand elles se sont retrouvées comme pays d'accueil et de résidence de nombreuses personnes dans les croyances religieuses, les mœurs comportementales et les appartenances ethniques étaient différentes, les empêchant à s'intégrer au système et aux lois des dites sociétés.
ولقد نجمت عن هذا الواقع مشكلة لا تزال تستعصي على الحل الجذري، فقد استقر في أذهان كثير من القائمين على إدارة تلك المجتمعات أن عضوا غريبا التصق من جراء هذا الواقع بجسم المجتمعات الغربية، استعفى على الالتئام به والاندماج فيه، فلا أنظمتها وقوانينها تتسع لاستيعاب سلوكات هذا العضو الغريب ومعتقداته، ولا أكثر الفئات والجماعات التي يتألف منها هذا العضو يقبل التخلي عن التزاماتها ومعتقداتها ويرضى بالاندماج في تيار الأنظمة والقوانين المرعية في تلك المجتمعات.
Cette réalité a donné naissance à un problème auquel aucune solution efficace n'a été trouvée. Et dans l'esprit de beaucoup de dirigeants et gouvernants de ces sociétés, il s'agit d'un corps étranger voulant se greffer au corps des sociétés occidentales et ayant du mal à coalescer et à s'intégrer, puisque ni leur système et lois sont suffisamment larges pour accepter les comportements et les croyances de ce nouveau corps étranger, ni la plupart des groupes et catégories composant ce corps acceptent de délaisser leurs croyances et de s'intégrer dans le courant des systèmes et lois suivis dans les dites sociétés.
وها نحن نرى اليوم الطروحات المختلفة التي يتبادلها القائمون على إدارة المجتمعات الغربية مع المغتربين الذين جعلهم الواقع عضوا يسمون فيها بالأقلية للوصول إلى حل سليم لا يهز شيئا من أركان الأنظمة والقوانين ولا يسيء في الوقت ذاته إلى الحقوق الإنسانية المشروعة لهذه الأقليات. ولست هنا بصدد الحديث عن هذه الطروحات ومدى جدواها، والأكثر ضمانة لحماية الأنظمة والقوانين ولرعاية حقوق الأقليات، لست بهذا الصدد، وإنما أنا بصدد بيان الفرق الكبير بين أنظمة المجتمعات الغربية وأحكام الشريعة الإسلامية في هذه المسألة التي كادت أن تصبح معضلة في هذا العصر.
Et nous voilà aujourd'hui en présence de plusieurs thèses que les dirigeants des sociétés occidentales échangent avec les immigrants qui sont devenus, par la force des choses, une partie de ces sociétés appelées minorités, afin de parvenir à une solution efficace qui ne portera atteinte à aucun des fondements des systèmes, du système et des lois en cours, tout en respectant les droits humains légitimes des minorités. Je ne parlerai ici ni de ces thèses, ni de leur degré d'efficacité, et je ne chercherai pas celle qui garantirait la meilleure harmonie entre l'ordre et les lois en vigueur et les droits de ces minorités. Ce dont je parlerai ici, c'est plutôt de la grande différence entre les systèmes occidentaux et les dispositions de la charia islamique vis-à-vis de cette question qui est presque devenue le problème de notre époque.
قلت إن النظام المنبثق عن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجد في قاموسه كلمة الأقليات قط، وإن تاريخ المجتمعات الإسلامية التي كانت تستظل بأحكام الإسلام لم يمر بهذه الكلمة في شيء من أطواره وتقلباته السياسية، فما السبب؟ وما نقطة الفرق في هذا؟ بين أنظمة الشريعة الإسلامية وأنظمة المجتمعات الغربية اليوم، إن السبب يتمثل فيما يلي: إن الأحكام الإسلامية المتعلقة بنظام المجتمعات الإسلامية، على الرغم من أن الكثير منها لا يجوز أن يطبق إلا في أرض إسلامية أو في دار الإسلام حسب المصطلح الفقهي، إلا أنها هذه الأحكام ليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم، بل روعي في تشريعها حال كل من تحتضنهم دار الإسلام من مسلمين وغيرهم، دون تفريق بين مستوطنين ووافدين، وبين مقيمين وسائحين. أما المسلمون منهم فيربطهم بقوانينها وأنظمتها الانتماء الديني، إلى جانب ضرورة انسجامهم مع نظامها الإداري والاجتماعي. وأما غير المسلمين فتربطهم بها ضرورة التجاوب مع أنظمتها العامة التي تعنى برعاية الحقوق والواجبات لشرائح الناس وفئاتهم على اختلافها، على أساس من العدالة التامة ودون أي تمييز.
Je disais donc que le système résultant des règles de la charia islamique n'inclut pas dans son dictionnaire le mot « minorité ». Et l'histoire des sociétés musulmanes qui vivaient sous l'autorité des règles islamiques n'a jamais utilisé ce mot dans aucune de ces phases et changements politiques. Quelle en est la raison? Et quelle est la différence entre les règles de la charia islamique et les systèmes occidentaux aujourd'hui concernant ce point? La raison est la suivante. Les règles islamiques en rapport avec le système ou le fonctionnement des sociétés musulmanes, malgré le fait que beaucoup d'entre elles, d'entre ces règles, ne peuvent être appliquées que sur une terre d'islam, Dar al-Islam en termes juridiques, donc ces règles ne sont pas spécifiques aux musulmans uniquement. Bien au contraire, cette catégorie de règles a été régie en tenant compte du cas de tous ceux qui habiteront cette terre d'islam, qu'ils soient musulmans ou non, sans distinction entre autochtones et immigrants, ni entre résidents et visiteurs. Les musulmans sont liés à ces lois du fait de leur appartenance religieuse, en plus de la nécessité d'être en harmonie avec leur système administratif et social. Quant aux non-musulmans, ils y sont liés par la nécessité d'être en harmonie également avec leurs principes généraux qui prennent soin de respecter les droits et les obligations des différentes catégories et classes sociales des gens sur la base d'une justice absolue et sans favoritisme aucun.
ولعل في الناس من يعجب إن ذكرتهم بأنه ليس في الأنظمة والقوانين الإسلامية ما يرسم أي فرق بين مستوطنين أصليين على أرض الإسلام ومتجنسين طارئين عليها ووافدين مقيمين فيها إلى أجل ما دام الكل يجنحون إلى السلم. ولا يتطلعون في وجودهم الدائم أو الموقوت إلى أي عدوان أو كيد، وأن النظام الواحد يشملهم جميعا ويرعاهم دون امتياز ولا تفريق. وعندما يلتقي على أرض الإسلام من جراء هذا الشمول أكثر من دين واحد، فإن الشريعة الإسلامية ترعى لكل ذي دين دينه دون أي ظلم أو اضطهاد، ضمن دائرة النظام الإداري العادل والشامل لمصلحة الجميع. أقول لعل في الناس من يعجب عندما أقرر هذا كحقيقة قائمة في الشريعة الإسلامية، وسأجيب الآن عن سر هذا الأمر.
Certaines personnes pourraient s'étonner de m'entendre dire que dans les principes et lois islamiques, rien ne distingue entre les autochtones d'une terre d'islam et les naturalisés venant d'ailleurs, ou ceux qui s'y installent pour une durée déterminée, pourvu qu'ils aspirent tous à la paix et que leur présence permanente ou temporelle dans cette terre n'ait pour but ni agression ni complot. Un même système les couvrira tous et prendra soin d'eux sans aucune distinction ou favoritisme. Et qu'on se retrouve dans une terre d'islam plus d'une religion, la charia islamique respecte le droit de tout un chacun d'avoir sa religion sans oppression ni injustice, dans le cadre d'un système administratif impartial prenant en compte l'intérêt de tout le monde.
بوسعنا أيها السادة والسيدات أن نتبين في الدولة الإسلامية الأولى التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المنورة، أبرز نموذج تطبيقي لهذه الحقيقة الهامة التي قد يعجب لها بعض الناس اليوم. إن المجتمع الذي تكونت منه تلك الدولة لم يعرف في أي عهد من عهوده ما يسمى اليوم أكثرية وأقلية، بل ظل يحتضن الكل على أنهم رعايا للدولة الإسلامية الفتية. ولقد تألفت تلك الرعايا، رعايا أول دولة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غالبية مسلمة ومن قلة من القبائل اليهودية، فما نبذت الدولة الإسلامية الدين المخالف ولم تحرم أصحابه من الحقوق التي تمتعت بها الغالبية المسلمة، بل نص نظام تلك الدولة على أن اليهود يتمتعون بدينهم وحقوقهم الإنسانية كاملة كالمسلمين سواء بسواء. وإليكم النص الذي يشكل جزءا من دستور أملاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هو المعمول به. النص هو التالي: يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ، يعني لا يهلك إلا نفسه. ويقول في بند آخر مؤكدا أن أبواب الدولة الإسلامية مفتوحة للمقبلين إليها أيا كانوا، وللنازحين عنها أيا كانوا دون تفريق. يقول: من خرج من المدينة فهو آمن، ومن قعد فيها فهو آمن.
Nous pouvons voir le meilleur modèle et exemple pratique de cette vérité importante dans le premier état musulman fondé par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que le salut de Dieu soit sur lui. La société qui a formé cet état n'a connu dans aucune de ses phases quelque chose de semblable à ce que l'on appelle aujourd'hui majorité et minorité. Elle a plutôt toujours accueilli tout le monde en les considérant comme des citoyens de ce jeune état musulman. Ce corps de citoyens était composé pour sa plupart de musulmans et de quelques tribus juives. L'État musulman n'a ni subjugué la religion juive, ni empêché ses adeptes de jouir des mêmes droits dont jouissaient les musulmans qui étaient en plus grand nombre. Bien au contraire, le système de cet État stipulait que les juifs jouissaient du droit d'exercer leur culte et de tous leurs droits humains au même titre que les musulmans, à pied d'égalité. Et voici une citation tiré de la constitution que le messager de Dieu, Mohammed, a dictée et qui était en vigueur. Les juifs de Bani Aouf constituent avec les musulmans une même communauté. Communauté est la traduction ici du terme Ummah. Une traduction rapprochée, bien sûr. Aux juifs, leur religion, et aux musulmans, la leur. Sauf celui qui commet une injustice ou un tort, en effet, ce dernier ne court qu'à sa propre perte. Dans un autre article de cette même constitution, affirmant que les portes de l'État musulman sont ouvertes à tout arrivant, quel qu'il soit, et à tout réfugié d'où qu'il vient sans aucune distinction, le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui sort de Médine est sécurisé, et celui qui y réside est sécurisé. »
سلسلة الدول الإسلامية فيما بعد على هذا النهج لا تستبدل به ولا تحيد عنه ولم يزدها اتساعها وتراميها في الآفاق إلا رسوخا على هذا النهج. ودليل على ذلك أن البلاد التي دخلت في الفتح الإسلامي كمصر والشام والعراق لم يكره أحد من أهلها على الدخول في الإسلام، فبقي مثلا ما يقارب نصف أهل الشام على نصرانيته إلى حروب الصليبية تقريبا، وظل الكثير من أقباط مصر على دينهم. وكذلك الشأن في بلاد فارس، لم يفتن نصراني منهم عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته، وأظلهم جميعا نظام المجتمع الإسلامي يرعى فيهم العدالة التامة دون أي حساب لقلة أو كثرة أو مواطن أو وافد، وإنما سرى الإسلام فيما بعد بالتدريج وبشكل ذاتي إلى عقولهم يقينا ثم إلى قلوبهم حبا دون أي إلزام مادي أو أدبي.
Les séries d'États musulmans qui sont venus après ce dernier État fondé par ce premier État plutôt fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont suivi cet exemple sans le changer ou l'enfreindre. Et plus leur horizon et leurs frontières s'élargissaient, plus ils étaient fermes dans l'application de ce principe. La preuve en est que dans les pays qui s'ajoutèrent à la terre d'Islam, tels que l'Égypte, le Levant, c'est-à-dire la Syrie, le Liban actuellement, et l'Irak, personne n'obligea un seul de leurs habitants à embrasser l'Islam, puisque plus de la moitié des habitants du Levant restèrent chrétiens, à l'instar des nombreux coptes chrétiens en Égypte et de ceux de la Perse. Ni les chrétiens, ni les juifs ont été malmenés à cause de leur religion. Ils étaient plutôt tous protégés par un système social musulman qui avait pour principe une justice absolue, dépassant les clivages entre minorités et majorités, résidents et immigrants, etc. C'est ainsi que, graduellement et de façon spontanée, l'Islam à pénétrer leur intelligence, puis leur cœur, sans qu'ils aient été obligés de n'importe quelle manière à y adhérer.
ودعوني أيها السادة والسيدات أضعكم أمام مشهدين من مئات المشاهد التي تبرز غياب كتلتي الأكثرية والأقلية داخل تيار العدالة الاجتماعية الراسخة التي تتعالى على الانتماءات الدينية والعرقية في ظل الحكم الإسلامي. أما المشهد الأول منهما فهو انتصاف لمظلوم شاب من أقباط مصر خاصمه ولد لعمر بن العاص في فرس له في مصر، فأوسعه ابن عمر ضربا بسوط في يده قائلا له خذها وأنا ابن الأكرمين. فما كان من الشاب القبطي إلا أن اتجه إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة وشكى إليه ما فعل به ابن عمرو بن العاص في مصر، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن يأتيه مع ابنه محمد إلى المدينة، وأكرم وفادة الشاب المصري واستبقاه عنده إلى أن وصل عمرو بن العاص وابنه إلى المدينة. يقول أنس بن مالك راوي هذا الخبر: فوالله أنا عند عمر وإذا نحن بعمر قد أقبل ومعه ابنه. فقال عمر: أين المصري؟ قال: ها أنا ذا. قال: دونك الدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين. فضربه حتى أثخنه، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال للمصري: أجلها على صلعة عمر، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه.
Laissez-moi vous mettre devant deux parmi des centaines de scènes qui démontrent l'absence de majorité et de minorité dans le courant de la justice sociale sublime qui transcende les appartenances religieuses et ethniques dans le cadre d'un système islamique. La première scène est celle d'une justice rendue... qui était gouverneur d'Égypte. Il était question d'un litige au sujet d'une jument entre ce jeune homme et le fils du gouverneur. Ce dernier frappa le copte à coups de fouet, lui disant « Voici pour toi, et je suis le fils des nobles ». Le jeune copte se dirigea vers Omar ibn Khattab, le calife, à Médine, et se plaignit de ce que le fils d'Amr lui avait fait subir en Égypte. Omar envoya à Amr ibn al-As, le gouverneur d'Égypte, une lettre lui demandant de se présenter à Médine avec son fils Mohammed, le coupable. Il offrit entre-temps hospitalité au jeune Égyptien et le garda chez lui jusqu'à l'arrivée de Amr et de son fils à Médine. Anas ibn Malik, qui nous a rapporté ce fait, dit « Par Dieu, j'étais chez Omar. Et voici que Amr arriva accompagné de son fils. Omar dit « Où est l'Égyptien ? » L'Égyptien répondit : « Me voici. » Omar dit : « Voici le fouet, utilise-le pour frapper le fils des nobles. » L'Égyptien le frappa aussi ardemment qu'il fut frappé, et Omar l'encourageait en lui disant : « Frappe donc le fils des nobles. » Puis il lui dit : « Mets-la sur la calvitie de Amr. Par Dieu, son fils ne t'a frappé qu'à cause du pouvoir de son père. » Omar s'adressa ensuite à Amr ibn al-As, le père de l'oppresseur, en lui disant « Ô Amr, quand avez-vous réduit les gens en esclavage alors que leur mère leur a donné naissance libre ?»
أقبل إلى الشام أو أقبل من الشام إلى المدينة مسلما، فاستقبله عمر بن الخطاب وأكرم وفادته. ثم أراد عمر الحج فخرج جبلة معه، فبينما جبلة يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره رجل من بني فزارة، فانحل الإزار، فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزاري، فشكى الفزاري أمره إلى عمر، فبعث إلى جبلة فأتاه، فقال: ما هذا؟ قال: إنه تعمد حل إزاري، ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف. فقال له عمر: قد أقررت بذلك، فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك. قال: وما تصنع به؟ قال: آمر بهشم أنفك كما فعلت. فاستمهله جبلة تلك الليلة ليرى رأيه في الأمر، فأمهله. فلما انتشرت العتمة ظلام الليل وهدأت الحركة، ولا جبلة عائدا إلى الشام مرتدا إلى نصرانيته. ثم إنه ندم على ارتداده وتركه الإسلام، وكان كلما اهتاج به الندم تغنى باكيا بأبيات له يقول فيها: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو أصغت لها ضرر. تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور. فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر.
Quant à la seconde scène, c'est celle d'une justice faite pour réparer un tort commis par Jabala ibn al-Ayham. Ce dernier était un des rois ghassanides venus de Syrie pour embrasser l'islam. Omar ibn al-Khattab l'accueillit et lui offrit l'hospitalité. Puis Omar a voulu se rendre en pèlerinage et Jabala aussi en fit pareil. En faisant le tour de la Kaaba, le tawaf, un homme de la tribu des Bani Fizara marcha par inadvertance sur le vêtement de Jabala qui fit défi. Ce dernier donna un coup de poing à cet homme de Fizara et lui cassa son nez. L'homme ne manqua pas d'aller s'en plaindre à Omar. Omar envoya chercher donc Jabala. Quand il arriva, il lui demanda « Quel est le problème ?» Jabala répondit « Il a fait exprès de défaire mon vêtement. Et si ce n'était la sacralité de la Kaaba, je lui aurais donné un coup de sabre entre les yeux. » Omar lui dit « Tu le reconnais donc ? Alors, soit tu t'arranges à satisfaire cet homme, soit je lui permets de se faire justice avec toi. » Jabala lui dit « Et que feras-tu de moi ?» Omar « J'ordonnerai qu'on te casse le nez comme tu l'as fait. » À cette parole, Jabala demanda un délai d'une nuit pour réfléchir. Et Omar le lui accorda. Quand la nuit tomba, Jabala est revenu en Syrie, en s'étant défait de l'islam et en embrassant le christianisme à nouveau. Mais il regretta d'avoir délaissé l'islam et à chaque fois qu'il était en proie à ses remords, il chantait en pleurant ces vers qu'il composa. Les nobles se sont christianisés à cause d'une gifle humiliante. Mais si j'étais patient, elle ne m'aurait pas été si dégradante. Hélas, à cause de ma vanité et de mon orgueil, j'ai vendu contre un œil éborgne un bon œil. Je souhaite qu'elle ne m'eût pas mise au monde, ma mère. Ah, si seulement j'avais pris en compte ce que disait Omar. Si seulement je pouvais avoir en Syrie une moindre vie où je resterais parmi les gens sans vue et sans ouïe.
أيها السادة والسيدات، ذلك هو حال المجتمع الإسلامي عندما كان مكلوءا برعاية الشريعة الإسلامية. الكثرة الظالمة فيه قلة. ذلك هو حال المجتمع الإسلامي عندما كان مكلوءا برعاية الشريعة الإسلامية. الكثرة الظالمة فيه قلة حتى ينتصف منها، والقلة المظلومة فيه كثرة حتى ينتصف لها، دون أي تفريق بين من ينتسب فيه بجنسيته إلى الأرض والوطن وبين وافد إليها غريب ومقيم فيها لمصلحة أو رزق. ومع ذلك فها أنتم ترون كيف أن محور الطغيان في العالم يجرد اليوم أمضى أسلحة الإرهاب فتكا في حرب معلنة على الإسلام الذي هذا هو قانونه وهذا هو تاريخه وهذا هو شأنه. وقد مهد أقطاب هذا المحور لحربهم هذه بأكذوبة لا والله لم أجد في قاموس الجرائم أشنع منها. إنها جريمة الكذب المتعمد على التاريخ. وهل التاريخ إلا لسان الدهر وعقله؟ إنها الأكذوبة التي وضعت الدهر كله في قفص الاتهام، لا بل في زاوية التجريم. وذلك عندما أعلن الطغيان الأمريكي أن الإسلام دين الإرهاب، ويقينا أن الإسلام لو كان مجموعة أفكار أنتجتها أمة من الناس لكان في هذه الحرب المعلنة عليه ما يقضي عليه اليوم، ولكن المستقبل القريب سيؤكد أن سيؤكد الحقيقة التي يعرفها كل ذي دراية عقلية حرة، وهي أن الإسلام ليس إلا وحي الله إلى عباده في الأرض، ومن ثم فلن تغيب شمسه ولن يخبو نوره قط. أشكركم والحمد لله رب العالمين.
Mesdames et messieurs, c'est celui-là le cas de la société musulmane quand c'était la charia musulmane qui en prenait soin. Si la majorité est opprimante, elle sera considérée comme minorité jusqu'à ce que justice soit faite. Et si la minorité est opprimée, elle aura le poids d'une majorité jusqu'à ce que justice lui sera rendue. Sans distinction aucune entre celui qui appartient à la terre depuis des générations et l'étranger qui est venu s'y installer, ou un résident temporel pour un intérêt ou un gain quelconque. Malgré cela, vous voyez que l'axe de l'oppression dans le monde utilise aujourd'hui les armes terroristes les plus dévastatrices dans une guerre déclarée contre l'islam, dont nous venons de montrer le principe et l'histoire. Les chefs de cet axe ont introduit leur guerre par le mensonge le plus ignoble que j'ai pu trouver dans le dictionnaire des crimes. C'est le crime de mentir et de falsifier sciemment l'histoire. L'histoire n'est-elle pas la chronique et la compréhension du temps? Ce mensonge et cette falsification mettent le temps entier dans le banc des accusés, ou plutôt dans le coin des criminels, quand la tyrannie américaine affirme que l'islam est la religion du terrorisme. Si l'islam était une série d'idées produites par une communauté de gens, cette guerre déclarée contre lui aurait sans doute triomphé de lui. Mais le futur proche affirmera une vérité que connaissent ceux qui jouissent d'une connaissance intellectuelle libre. Cette vérité est que l'islam n'est qu'une révélation de Dieu à ses créatures, et par conséquent, jamais son soleil ne se couchera et jamais sa lumière ne ternira.
Je vais d'abord donner la parole à Cheikh Harbi.
Ashhadu بأن الشعر لا يترجمه إلا شاعر. J'atteste que seuls les poètes peuvent traduire la poésie. Et par conséquent, j'atteste que Samia est une excellente poétesse. ثانيا عندما شرفت بالحديث إلى الأستاذة فرانسواز ميشون واتفقنا على موضوع محاضرتها اليوم، رجوتها أن تقول كل ما تعلم وكل ما يقوله إخواننا من غير المسلمين في قضية النظام الإسلامي المعروف بنظام الذمة. Lorsque j'ai eu la joie de discuter avec notre amie Françoise Michaud le sujet d'aujourd'hui, à savoir les pratiques de Zima à travers l'histoire, je lui ai demandé amicalement de soulever toutes les questions soulevables à ce sujet, par rapport à ce sujet. Pourquoi ? Comme vous le savez, يعلم الجميع أن أهل أي دين من الأديان عندما يخلو بعضهم إلى بعض يتحدثون حديثا يعلي من شأن ما يعتقدونه صوابا، أليس كذلك؟ Nous savons tous que lorsqu'ils se retrouvent entre eux, les membres d'une communauté religieuse, d'une communauté ou d'une autre religieuse, se permettent de tenir un discours idéalisant de leur religion. Al-Muslimoun
ولكن lorsque l'heure de vérité sonne, عندما تدق ساعة الحقيقة ويجتمع مثلا المسلمون واليهود والنصارى واللائكيون وكل الطوائف لهجتنا تتغير. Et lorsque l'occasion s'offre aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux manarfouachis, aux laïcs, notre discours change. Il se transforme en un discours de salon et de salam alaik. Hada la yajous. Ce n'est pas faire preuve d'authenticité. Ce n'est pas faire preuve de respect à l'égard de soi-même et à l'égard de l'autre. Ce que nous voulons créer ici, au sein de ce centre, c'est de progresser avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de sincérité et beaucoup de respect assumé pour tenir un langage qui dissipe les ténèbres qui nous empêchent de voir la réalité, non la réalité tangible, mais la réalité qui habite nos têtes. لذلك نحن في هذا المركز نحاول أن نهيئ جميع الظروف المناسبة التي يطبعها الحب ويطبعها الصدق وتطبعها الموضوعية وتطبعها الصلة الحقيقية مع النفس. فنرجو من جميع الأطراف أن يقولوا كل ما يمكن قوله بخصوص هذه القضية أو تلك. أنا أعرف, je sais comme vous tous, lorsque les musulmans sont entre eux, ça y est, l'islam et tout, هذه عقيدتنا, أنا أؤمن بهذا. لكن الآخرين ربما لا يشاركوننا الرأي, mais nos amis qui ne sont pas musulmans ont tout à fait le droit de ne pas accorder beaucoup de crédibilité à notre discours. C'est leur droit. Comment que peut-on faire, madame Stadiou Annafal, hatta naltaqi حول مائدة وكل واحد منا يجلس على سرر المحبة. Comment créer une ambiance débordante d'amitié et dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi? C'est une responsabilité à l'égard de l'histoire. مسؤوليتنا عظيمة تجاه تاريخنا. Et à propos de l'histoire, il faut avoir présent à l'esprit que les uns et les autres ne possèdent pas la même expérience historique. لم تكن تجربتنا التاريخية تجربة واحدة. أنا خايف أخرج الموضوع. فمثلا نحن إذا اعتبرنا نظام الذمة في الإسلام أروع ما عرفه تاريخ البشرية ونحن نؤمن بهذا. Les musulmans considèrent le système de Dhimma comme le meilleur système sur Terre. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis à l'université, avec des professeurs, d'écouter des conférences qui pensent tout à fait le contraire. C'est pour cela que j'ai sollicité Madame Françoise Michaud de nous dire ce que nos amis non-musulmans considèrent comme positif ou la négatif, comme complet ou la incomplet dans le système de Dhimma. Alesh, pour qu'il y ait un vrai dialogue. Un vrai dialogue. Anna, lorsque je lis un livre, lorsque j'étais en train de préparer ce séminaire, j'ai fait pas mal d'écrits sur le Dhimma. Oui, c'est vraiment, ça fait peur. Enfin, yani, notre amie Françoise Michaud a une carte plus que blanche. Wa yakun insha'Allah al-hiwar muthmir حتى تتكامل الأفكار و
Merci pour cet encouragement de la part de mon ami Larvi Keshat, mais je ne vais peut-être pas répondre exactement à sa demande, parce que l'exposé que je vais vous présenter, les éléments d'information et de connaissances que je vais vous donner, viennent de ce que je suis, très modestement, c'est-à-dire une historienne qui essaie d'étudier le passé et de tirer du passé quelques leçons. Je m'arrête pour faire paragraphe par bon. Et ce que je voudrais donc présenter ici, ce n'est pas un jugement sur le statut de l'Azimma, car l'historien n'a pas à juger, comme nous tous en général, il faudrait mieux nous abstenir de juger, mais en tout cas l'historien n'a pas à juger, mais tenter de comprendre, et de comprendre le passé pour en tirer des leçons pour aujourd'hui. Vous voulez? Oui.
الأستاذة فرانسواز ميشو تشكر الشيخ العربي كشات على التشجيعات التي قام بها بالنسبة لها، ولكنها تقول أنها لن تجيب على طلبه ولن تقوم إلا بالحديث في إطار اختصاصها الذي هو التاريخ، دراسة التاريخ، وتقول أنها كباحثة في التاريخ لا يحق لها أن تصدر أي حكم عن مفهوم الذمة وكل ما يعبر عنه من أفكار، إنما ستحاول فقط طرح الأسئلة المتعلقة به وتحاول أن تفهم وتشرح مفهوم الذمة حسب ما درسته.
Si l'on veut parcourir l'histoire et notamment l'histoire de ce statut de la Zimma, je pense qu'il est important de distinguer trois ou quatre périodes. Une première période dont je ne parlerai pas puisqu'elle a été évoquée par le cher Bouti, c'est la période, on va dire, privilégiée de celle du prophète Mohammed et de la constitution de Médine. Je n'en parlerai pas. Mais en revanche, je voudrais évoquer rapidement les trois grandes périodes parce que je pense que cela peut nous éclairer. La première période, c'est celle, disons, des cinq premiers siècles de l'histoire de l'islam à partir de la conquête arabe, et qui correspond à la période d'élaboration de ce que l'on appelle la Zimma. Vous préférez que je... Par petits bouts, c'est plus facile.
إذا أردنا دراسة تاريخ وضعية الذمة فسنقسم هذا التاريخ إلى عدة مراحل، وتقول لن أتحدث عن المرحلة الأولى التي تحدث عنها الشيخ البوطي، وهي مرحلة إنشاء الدولة الإسلامية الأولى على أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم ودستور المدينة وغيره، وتقول ممكن أن نقسم تاريخ الذمة إلى عدة مراحل، والمرحلة الأولى منه تنطلق ابتداء من القرون الخمسة الأولى بعد الفتوحات الإسلامية.
Cette période est donc celle de l'élaboration de ce qu'on appelle la Zimma, c'est-à-dire le statut fixé par la loi musulmane, par la charia, des non-musulmans en pays d'islam. La Zimma est née d'une situation historique, c'est celle des conquêtes arabes des 7e et 8e siècles, qui ont abouti à la constitution d'un immense empire sous la direction des califes, immense empire qui s'étendait de l'Atlantique à l'Indus, et qui comprenait, comme d'ailleurs le cher Boutil nous l'a rappelé tout à l'heure, des populations qui, numériquement parlant, étaient en grande majorité non musulmanes, du moins dans ces temps les plus anciens, des populations chrétiennes, des populations juives, et aussi, ce que l'on oublie trop souvent parce qu'ils ont disparu depuis, les zoroastriens, c'est-à-dire les populations de la Perse.
تقول في هذه المرحلة الأولى هناك مفهوم الذمة بدأ ينشأ ويظهر على الساحة، وهو يخص غير المسلمين الذين يعيشون تحت إطار الدولة الإسلامية أو في بلاد الإسلام، وتقول أن في القرنين السابع والثامن ميلادي بلغت حدود الدولة الإسلامية حدودا واسعة من المحيط الهادي الهندي إلى المحيط الأطلسي، وكانت تشكل إمبراطورية عظيمة يعيش تحت لوائها نصارى ويهود والمجوس الذين كثيرا ما ننساهم في حديثنا.
Les nouveaux maîtres, donc arabes et musulmans, forment, numériquement parlant, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit que d'une estimation quantitative, mais je crois qu'elle est importante à connaître, forment, numériquement parlant, une minorité. Mais cette minorité est détentrice du pouvoir, et ces nouveaux maîtres organisent un empire où, dans ces premiers siècles, les non-musulmans, ceux qui ne sont pas les indigènes, qui n'ont pas encore adhéré à l'islam, fournissent l'essentiel des richesses, notamment parce que ce sont eux qui sont des paysans et qui travaillent la terre. Les califes et les gouverneurs vont donc se préoccuper d'administrer cet empire, d'y rendre la justice et aussi d'en assurer les rentrées fiscales. Et le poids des impôts fut assurément très lourd pour les indigènes, pour les paysans. En particulier, l'impôt sur la terre était très lourd. On ne parle pas actuellement du statut de la Zimma, mais je pense qu'il est important de connaître ce contexte pour mieux apprécier ce dont je vais parler ensuite. Donc le poids des impôts fut assurément très lourd pour les indigènes, et certains gouverneurs, notamment en Irak ou en Égypte, n'hésitèrent pas à augmenter les impôts. Ce qui explique de très nombreuses révoltes, notamment des révoltes coptes, dont on a parlé tout à l'heure, des révoltes contre le pouvoir. Mais je crois qu'on analyse souvent très mal ces révoltes si on perçoit ces révoltes comme des révoltes de chrétiens contre des musulmans, ou si on explique que ces révoltes sont dues au fait que les musulmans opprimaient les chrétiens. Soyons à la plus réaliste, ce sont des gouverneurs qui, détenteurs du pouvoir, oppriment fiscalement, ou en tout cas ont une attitude très dure sur le plan fiscal à l'égard des paysans, et il s'agit de révoltes paysannes, comme on en a vu beaucoup et en bien d'autres lieux à travers l'histoire.
تقول فالعرب المسلمون في هذه المرحلة لو تحدثنا عن عددهم كانوا يشكلون أقلية، لكنها كانت الأقلية الحاكمة في هذه البلدان، وكانت الأكثرية التي لا تدين بالإسلام في هذه البلدان هي التي تمتلك الثروات، وهي التي كانت تعطي أو تغني دار المال المسلمة. فالأقلية المسلمة الحاكمة كانت تهتم بإدارة كل هذه البلدان، والإدارة تعني نظام العدالة ونظام الضرائب. وما حدث أن العديد من الحكام فرضوا ضرائب باهظة على غير المسلمين، وخاصة ضرائب على الأراضي. فكانت أصحاب الأراضي الذين فرضت عليهم ضرائب ثقيلة قد قاموا بثورات مثلا الثورات التي حدثت في مصر والتي قام بها الأقباط ضد الحكومات الحاكمة. فتقول ويكون سنخطئ لو اعتقدنا أن هذه الثورات كانت ثورات دينية لمسيحيين تقلبوا أو تألبوا على المسلمين، بل هي يجب أن ننظر إليها من منظور أنها ثورات أصحاب الأراضي ضد حكومة فرضت عليهم ضرائب باهظة.
Oui. C'est à l'époque abbasside, c'est-à-dire après 750, que les cadres administratifs et juridiques sont élaborés, et en particulier que sont rédigés des traités de firq qui fixent la charia, et dans lesquels on trouve ce statut de zimma. Je suis tout à fait d'accord avec le cher Bouti pour dire que la notion de minorité n'existe pas, et que l'on la trouve absolument jamais dans ces textes de la tradition arabe. En revanche, on y trouve le terme de zimmi. Ce statut de zimmi, que je ne traduis pas, exprès. Ce statut, parce que ce n'est pas un statut de minoritaire. Ce n'est pas un statut de minoritaire puisque précisément à l'époque où il est élaboré, ces ennemis sont numériquement parlant majoritaires. Hein? Donc vous voyez, on ne comprend rien si on traduit. C'est du moins mon opinion d'historienne. Ce statut de ennemis concerne ce que le Coran appelle les gens du livre, Ahl al-Kitab, donc les juifs et les chrétiens,
auxquels ont été ajoutés, pour des raisons évidentes, les Zoroastriens et quelques autres non-musulmans vivant en, habitant en terre d'islam. Ce statut de Zimma a été élaboré en référence, bien sûr, au Coran, à l'exemple de Mohammed et notamment à la constitution de Médine, que le cher Bouti a évoqué tout à l'heure, mais encore plus, me semble-t-il, aux réalités nées de la conquête, en particulier les traités qui avaient pu être conclus à ce moment-là, et à la constitution d'un empire.
تقول في المرحلة العباسية في مرحلة الحكم العباسي تم تشكيل إطار إداري وقضائي ينظم مفهوم الذمة وذلك في إطار فقه الفقه تبويب مباحث الفقه التي عرفت مفهوم أهل الذمة وتقول أنها توافق الشيخ البوطي على عدم وجود مفهوم الأقلية والأكثرية في الفقه الإسلامي لأن وتقول أنه من الخطأ أن نترجم كلمة أهل الذمة بالأقلية لأنهم في ذلك الوقت تعيد وتكرر لم يكن غير المسلمين أقلية بل كانوا أكثرية فتقول مفهوم الذمة يشمل أهل الكتاب بالإضافة إلى المجوس وغيرهم ويعني يشمل غير المسلمين المتواجدين في دار الإسلام وتقول هذا المفهوم مفهوم أهل الذمة مستمد من دستور المدينة كما تفضل به الشيخ البوطي ومستمد كذلك من مواثيق وعهود